pour son auditoire. C'est cela même qui explique le succès immédiat de François. On peut douter qu'il soit monté en chaire. La chaire est faite pour les savants, dont il faut avoir le style relevé, mais François ne se sert pas de grands mots. Un enfant le comprendrait. Tout le monde le comprend. Et très simplement, il parle du plus grand mystère qui soit. L'amour de Dieu pour chaque homme au monde. Pas un seul n'est excepté, même les méchants, même les pires. Il croit ce qu'il dit. Et il le croit avec une telle force que ces gens qui l'écoutent en sont bouleversés. Les sermons du dimanche ne dérangent personne, et ce petit homme si misérablement vêtu, sans rien de remarquable dans son apparence, mais dans les yeux un éclat comme si son âme avait pris feu, celui-là on l'écoute avec une attention passionnée, parce qu'on dirait qu'il fait tout changer autour de lui. Le monde n'est plus le même. Personne n'est le même. Ne se sent le même. Il s'est passé quelque chose. Quand monsieur le curé parle, lui pourtant si vénérable, il ne se passe rien. C'est impossible à expliquer. Et, quand le petit homme s'en va, on se demande si c'est vraiment le fils du drapier ou quelqu'un d'autre qu'on a entendu. Or, c'est quelqu'un d'autre. Un témoin au-dessus de tout soupçon. Après le tout premier, qui lui est resté inconnu, un peu comme si tous ceux qui aimeront François dans la suite des temps devaient se reconnaître dans ce visage effacé, le premier disciple connu fut un riche citoyen d'Assise, Bernard de Quintavalle, un personnage, docteur dans l'un et l'autre droit à l'université de Bologne, installé dans un imposant manoir. Homme de petite noblesse, mais très considéré, dont on essaiera d'abord de supporter les vertus. Sa conversion fut loin d'être subite, et c'est par là qu'elle nous intéresse. Son coup de foudre, il l'eut, si l'on peut dire, au ralenti. François et sa conversion, qui avaient fait tant de bruit, retenaient son attention. Le nouveau pauvre avait subi les avanies des moqueurs et des cyniques. Les insultes ne lui avaient pas été épargnées, ni les pierres, ni la boue lancée parfois avec elles. Il acceptait tout avec cette incompréhensible humilité qui exaspère le monde et provoque le mépris. Bernard observait ces choses et s'interrogeait. S'il s'agissait d'un simulateur, où trouvait-il la force de persévérer? Le doute s'installait en lui, et pris de pitié pour le pauvre Pazzo, il lui offrit un soir un refuge dans sa maison et le pria de dîner avec lui. Si courtoise fut l'invitation que François l'accepta. Elle dut se renouveler plusieurs fois. Une amitié mûrie, qui devait magnifiquement s'épanouir plus tard lorsque François se mit à prêcher. Mais là encore, quelle prudence chez ce Bernard de Quintavalle! Il n'était pas homme à s'engager à la légère. Par un de ces revirements si fréquents dans les milieux populaires, l'hostilité envers François tournait au respect, puis à l'engouement, et presque à l'amour. Comment voir clair dans tout cela? Bernard avait eu sans aucun doute de longs entretiens avec son pauvre, et celui-ci parlait du fond du cœur avec une sincérité bouleversante. Mais quoi? Il est si facile de s'exalter, de présenter de soi sans en avoir conscience une image flatteuse, voire édifiante, de se payer de mots. Quintavalle, personne grave et l'aîné de François, voulait se former un jugement personnel et rationnel sur le compte de son hôte. Et il eut recours, peu de temps après le premier sermon de François à Saint-Georges, à un de ces pieux stratagèmes qui nous éloignent de lui de prime abord, mais dont le fruit devait le justifier. Quand François dormait chez lui, il avait l'habitude de lui faire dresser un lit dans sa propre chambre, où, la nuit, brillait toujours une veilleuse. Curieux de nature, méfiant, observateur attentif, il était en bonne place pour déceler enfin toute la vérité sur François. Au bout d'un laps de temps raisonnable, il feignit de dormir. Certains écoutent aux portes, ou regarde par le trou d'une serrure, inépuisable source d'informations. « La meilleure », disait un romancier anglais.